Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez, un moment pour la Terre, c'est tout de suite avec Patrick Fabre. Bonjour.
Bonjour. Oui, donc je m'appelle Patrick Fabre, je fais partie du mouvement des Coquelicots depuis sa création il y a eu 2 ans au mois de septembre de cette année, donc c'était en septembre 2018. Je suis déjà donc venu ici à 2 reprises à l'invitation de Martine Vallon, qui malheureusement est indisponible aujourd'hui. Et je la salue si elle nous écoute et la remercie de me permettre de m'exprimer sur les thèmes qui nous sont chers. Donc aujourd'hui, moi, je propose qu'on parle, qu'on fasse un peu le point, qu'on dise où en est le mouvement des Coquelicots. Il n'est pas arrivé à son terme. On a des projets pour l'avenir. Et puis également parler des néonicotinoïdes qui reviennent à l'avant de la scène en ce moment. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Je crois qu'on pourrait, de façon intéressante, faire le point sur ce sujet.
Donc, le sommaire, c'est ça. On va parler plus en détail de ces...
Tout à fait.
...drôles de néo...
Nicotinoïdes.
Nicotinoïdes, c'est dans un instant.
Allez. Oh, les mésanges, petites pattes, gentils coquelicots, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon. Le jour se rêve dans nos bépines, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon. Le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide, pardon. On embête les bêtes avec des poudres, avec le DTT. Plastique bleu qui prend la mer pour les millénaires.
Voilà, bien, cette chanson d'Alain Souchon nous met tout à fait dans le bain, si je peux dire, de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et avant de commencer vraiment à aborder les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, je voulais commencer par une citation que je vais vous lire, et je vous dirai après d'où elle est extraite. Nous voici maintenant à la croisée des chemins. Deux routes s'offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles. Celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop longtemps suivie est facile, trompeusement aisée. C'est une autoroute où toutes les vitesses sont permises, mais qui mène droit au désastre. L'autre, le chemin moins battu, nous offre notre dernière, notre unique chance d'atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre. Après tout, le choix nous appartient. Si après avoir beaucoup enduré, nous faisons enfin prévaloir notre droit de savoir, et si renseignés nous estimons vains et dangereux les risques que l'on nous demande de prendre, n'avons-nous pas le droit de rejeter le conseil des gens qui veulent empoisonner notre monde, et ne pouvons-nous choisir l'autre route, celle du salut ? Cette citation, elle est extraite d'un livre qui s'appelle en anglais « Silent Spring » de Rachel Carson, donc en français « Printemps silencieux », et qui a été écrit en 1962, donc il y a presque 50 ans, et même presque 60 ans. Cette auteure, Rachel Carson, qui avait été très décriée, qui était une scientifique de renom, avait déjà dénoncé l'utilisation de ces poisons que sont les pesticides. C'est ce que nous faisons aussi depuis 2 ans avec le mouvement des coquelicots, qui a été créé en effet au mois de septembre 2018. Donc ça a fait 2 ans là au mois de septembre, au début du mois de septembre de cette année. 2 ans de fonctionnement, et je rappelle que le mouvement des coquelicots demande justement l'interdiction de tous les pesticides de synthèse et en se basant sur des faits avérés, des résultats obtenus par des scientifiques qui montrent qu'ils sont vraiment dangereux pour l'environnement, pour nous, pour la nature, dans toutes ses dimensions. Donc ce mouvement des coquelicots a très bien fonctionné pendant 2 ans. C'était la date qu'on s'était donnée pour faire un bilan. Tous les mois, je rappelle qu'il y avait un rassemblement le premier vendredi de chaque mois. On a récolté plus de 1 100 000 signatures avec une période qui a été difficile puisque au moment du confinement, en début d'année, entre les mois de mars et juin, évidemment, les rassemblements ont dû s'arrêter. Donc ça a cassé un petit peu la dynamique de ce mouvement.
C'est, pardon de revenir là-dessus, c'était plus d'un million de signatures, oui. C'est sur le plan national ?
Oui, sur le plan national, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on avait lancé un appel. Cet appel, on avait préféré utiliser le mot appel plutôt qu'un autre, de façon à ce que les gens se sentent motivés, à savoir qu'ils transmettent autour d'eux l'appel en question. Et ça s'est fait très rapidement au début. On était assez frappés dans les premières semaines qui ont suivi le départ du mouvement, c'est-à-dire à la fin de l'année 2018, en voyant la progression extrêmement rapide des signatures. Bon, après, ça s'est un petit peu calmé. Et puis, évidemment, avec les 3-4 derniers mois du confinement, ça s'est arrêté. Mais enfin, les résultats sont là. Et pendant toutes ces deux années, il y a eu de nombreux événements qui ont ponctué le mouvement des coquelicots. Dans notre région, dans le département du 04 en particulier, je citerai le tournage d'un clip vidéo qui mettait en scène une chanson que la chanteuse Émilie Loiseau avait composée pour nous et dont elle nous avait donné les droits. Ce clip qui avait été mis en scène par Cyril Dion, donc quand même quelqu'un de très connu dans le milieu de l'environnement. Ce clip donc avait été tourné à Revest-des-Brousses et c'était au début de l'année 2019. Il faisait très froid jusqu'au dernier moment, on avait craint que ça ne puisse pas se faire. Et finalement, on avait doublé la population du village pendant un week-end grâce à des gens qui étaient venus même de très loin. Il y avait des gens qui venaient de Nice, du Vaucluse, etc. Ça avait été un très très beau moment, ce tournage de ce clip. Il y avait eu un autre beau moment, c'était un peu plus tard... au mois de juillet 2019, toujours dans le même village de Revest-des-Brousses, avec la maire Brigitte Reynaud qui nous avait très bien reçus à cette occasion. On avait réalisé un mariage symbolique évidemment, entre une demoiselle coquelicotte, pourrait-on dire, et un monsieur climat, c'est-à-dire un jeune homme, qui représentait le mouvement des jeunes pour le climat, YFC, Youth for Climate. Et donc, il y avait évidemment, il y a convergence entre tous ces mouvements. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui, puisque France Nature Environnement va dans le même sens que nous tous, bien entendu. Et donc, pour ce mariage, entre guillemets, il avait été officialisé, si l'on peut dire, par la maire en personne, à qui on avait brodé une magnifique écharpe, parce qu'elle n'avait pas voulu revêtir l'écharpe tricolore, évidemment, puisque ce n'était pas un mariage officiel, mais une magnifique écharpe arc-en-ciel qu'elle a conservée d'ailleurs en souvenir de ce beau moment. Et je me rappelle en particulier de l'intervention de Pierre Lieutaigui, qui est très connu comme écrivain et ethnobotaniste, qui nous avait honoré de sa présence et qui avait fait un discours magnifique ce jour-là. Donc c'était deux moments, de cette année des coquelicots qui étaient vraiment très chaleureux. Et les deux années de fonctionnement de notre mouvement ont été bien remplies. C'était le délai qu'on s'était fixé au départ pour obtenir le maximum de signatures. Évidemment, on en aurait souhaité davantage. Cette date donc des deux ans a été atteinte au début de septembre et les derniers rassemblements ont eu lieu. Notamment, il y en a eu un digne auquel j'ai participé au début de ce mois de septembre. Mais ça ne veut pas dire que ce mouvement s'arrête, s'épuise. Et puis, il faut bien reconnaître aussi que pendant tout ce laps de temps, de nombreux sujets ont été abordés, étudiés. Certains scandales ont été dénoncés. Et il y a eu donc beaucoup d'actions entreprises. Je rappelle également que pendant le même temps, des arrêtés ont été pris par plus d'une centaine de maires au niveau de la France entière pour limiter sur leur territoire l'usage des pesticides. Dans le département, deux maires bien courageuses, je dis courageuses parce que ce sont des femmes, Brigitte Reynaud en particulier, que j'ai citée tout à l'heure, qui était à l'époque la maire de Revesse-des-Brousses, et Brigitte Moya, qui est la maire d'un village voisin, Aubenas dans les Alpes, à ne pas confondre avec évidemment Aubenas en Ardèche. Et ces deux maires avaient décrété par décret, donc sur leur commune, l'interdiction de l'utilisation des pesticides à une certaine distance des habitations, des écoles, etc. Voilà, tout à fait. Dans tous les cas, les préfets se sont insurgés, ont demandé que les maires en question retirent leurs arrêtés, ce qu'elles n'ont pas fait, et ce qui n'a pas été fait d'ailleurs à l'échelon national aussi. Donc ensuite, ça s'est poursuivi devant les tribunaux administratifs, qui ont dans la grande majorité des cas en France, mais pas dans tous les cas, il faut bien le dire, cassé ces arrêtés. Donc les procédures ne sont pas terminées, puisque là c'était des procédures en référé, donc rapides. Il y a un jugement sur le fond qui pourra intervenir un peu plus tard. Ça, ce sont les lenteurs de la justice qui fait qu'on ne sait pas quand est-ce que ça pourra arriver. Et je précise aussi qu'on avait fêté d'ailleurs chez à Aubenas, donc chez la maire Brigitte Moya, le premier anniversaire des coquelicots au mois d'octobre 2019. Voilà. Alors pour clore ces deux années, il fallait une cérémonie, celle de la remise officielle des signatures à notre ministre de la Transition écologique, c'est-à-dire Barbara Pompili. On avait essayé aussi d'obtenir un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui n'a pas donné suite. Mais finalement, Barbara Pompili a accepté de nous recevoir, de recevoir une délégation. Cette délégation comportait évidemment Fabrice Nicolino, je dis évidemment parce que c'est lui qui est un peu à l'origine du mouvement des coquelicots. Je rappelle qu'il est journaliste en particulier à Charlie Hebdo, qu'il a d'ailleurs en ce moment des très mauvais souvenirs dans l'esprit, puisque au moment où il y a le procès des attentats de Charlie Hebdo, il était dans les locaux de Charlie Hebdo le jour de l'attentat. Il a été très grièvement blessé. Il s'en est heureusement, miraculeusement sorti, mais ça doit être très difficile en ce moment et je pense bien à lui. Donc cette rencontre avec Barbara Pompili, elle s'est déroulée au ministère le 15 septembre 2020, donc c'est tout récent, c'était au milieu du mois. Et donc, cette délégation était composée de Fabrice Nicolino, donc le président de l'association des coquelicots, Émilie Loiseau, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait enregistré cette chanson et qui avait participé au tournage de ce clip vidéo, un jeune garçon, Victor Noël, qui a 15 ans et qui, du haut de ses 15 ans, prend déjà beaucoup de responsabilités pour défendre l'environnement, et Marianne Frisch, qui est une personne très solide qui a bien accompagné depuis le début le mouvement des coquelicots. Donc ils ont rencontré Barbara Pompili, qui est donc la ministre de la Transition écologique, et dont on va reparler tout à l'heure. C'était la première fois depuis la création de notre mouvement qu'un ministre daignait nous recevoir, nous accorder un entretien. On lui a remis solennellement 1 135 133 signatures exactement, qui sont arrivées dans de nombreux cartons et qui ont été donc vaillamment recueillies pendant ces 2 années. Et à cette occasion, Fabrice Nicolino a adressé à Madame Pompili une plainte morale que je vais lire parce que elle est bien rédigée et elle dit bien ce qu'elle veut dire. Voilà ce que dit cette plainte morale. « Nous ne pouvons plus attendre et vous faites pourtant comme si. La crise de la vie sur Terre et donc en France est totale. Vous le savez, mais vous faites semblant qu'il n'en est rien, préférant miser sur une carrière politique qui a fait de vous le numéro 3 du gouvernement. De ce gouvernement qui se moque des dizaines de milliers de coquelicots de ce pays, ceux qui chaque mois depuis 2 ans alertent d'une manière pacifique devant des centaines de mairies françaises. Aucun ministre, aucun élu de la République n'a jugé bon de seulement nous contacter. Ils auraient alors appris ce qu'est une démocratie vivante. La manière dont nous avons réuni patiemment, une à une, sur les places et les marchés, dans les salles d'attente des médecins, à la sortie des gares, 1 135 133 signatures pour l'interdiction des pesticides. Le tout à l'initiative d'une dizaine de citoyens, au départ, sans un centime d'euro public ou privé. Ce mépris est une grave honte pour notre République et il nous indigne. Madame Pompili, vous êtes responsable. Vous êtes responsable personnellement et nous n'acceptons pas les subterfuges habituels. Vous ne pouvez décemment vous abriter derrière des arguties. Oui, il y a l'État, les lobbies, l'économie, mais oui, il existe un droit supérieur à tout autre, celui des écosystèmes sans lesquels nous ne sommes rien, celui des bêtes et des plantes massacrées par les pesticides, celui de la santé des humains, celui des fabuleuses rivières dont nous aimerions tant boire l'eau sans inquiétude. C'est ce droit-là que vous devez défendre contre tous ceux si nombreux qui nous enfoncent dans une crise sans issue. Mais vous ne le faites pas. Et pour cette raison, le mouvement des coquelicots dépose, ce 15 septembre 2020, une plainte majeure contre vous. Elle n'est pas pénale, elle est morale et fondamentale. C'est une plainte solennelle pour non-respect de votre propre parole. C'est une plainte pour non-assistance à des milliards d'êtres vivants en danger de mort immédiate, dont le peuple des abeilles n'est qu'une première ligne. C'est une plainte qui restera. Cette flétrissure vous suivra tout au long de votre vie. À moins que... Point d'interrogation. Voilà, je trouve qu'il avait tout à fait résumé notre sentiment à tous. Et Madame Pompili a, il faut bien le reconnaître, écouté stoïquement cette attaque. Mmh. Voilà. Et elle a quand même, après avoir entendu cela, accepté de signer l'appel des coquelicots. Donc elle a posé sa signature, là j'ai sous les yeux la photo le montrant, avec sa signature, cet appel des coquelicots, qui donc appelle à interdire les pesticides de synthèse, porte dorénavant une signature de plus, celui de Madame Pompili. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu antagoniste, notamment par rapport à ce dont on va parler ensuite, c'est-à-dire les néonicotinoïdes dont qu'il est question de remettre sur le marché. Voilà.
On fait une pause musicale ?
Une petite pause.
Allez.
Avant la rivière a séché, avant votre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent. Entremêlés, la salle épaisse et mon sang. J'ai respiré en entier pour une fois.
Magnifique chanson de Pomme, les séquoias.
Ah oui, j'aime beaucoup cette chanteuse. Je la recommande chaudement. Et en plus, cette chanson qui parlait d'arbres se prêtait tout à fait à notre propos d'aujourd'hui. Voilà, donc pour passer à autre chose, d'abord je voudrais dire donc que le mouvement des coquelicots se poursuit, même si l'anniversaire en quelque sorte des 2 ans est dépassé. Il n'y aura plus de rassemblement tous les mois, comme on le faisait le premier vendredi de chaque mois. En tout cas, plus à l'échelon national, mais rien n'empêche à l'échelon local d'organiser ce que l'on veut, de demander l'aide d'ailleurs au niveau national. Le site du mouvement des coquelicots, nous voulons des coquelicots, toutattaché.org, existe toujours, il est ouvert, il continue à donner des informations et donc on peut tout à fait continuer à échanger et à annoncer des manifestations locales. Au contraire, ce sera toujours bienvenu. Et donc, on a doublé l'appel « Nous voulons des coquelicots » par un autre appel, à savoir « Nous voulons des paysans ». Parce que contrairement à ce qu'on a beaucoup dit autour de nous, le mouvement des coquelicots n'est pas du tout opposé, mais vraiment pas du tout au mouvement des paysans. Nous, ce qu'on demande, c'est une agriculture différente. Il faut vraiment changer fondamentalement la manière d'aborder l'agriculture. Et certains, et même je dirais beaucoup de paysans, y sont tout à fait favorables, l'ont déjà fait. Et il faut simplement les aider à le faire dignement. Plutôt que de les encourager à utiliser des pesticides destructeurs et ravageurs. Ça nous amène tout naturellement au deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le sujet des néonicotinoïdes.
Alors,
qu'est-ce que c'est que les néonicotinoïdes ? Donc, les néonicotinoïdes, ce sont des pesticides horribles. C'est parmi les pesticides les plus toxiques que l'on ait pu inventer. Ils sont à base de nicotine, c'est pour ça qu'il y a ce terme de néonicotinoïdes. Ils sont apparus dans les années 90. Alors, ils ont été remis au public sous des noms différents, très jolis noms d'ailleurs, tels que Bambi, Equinox, Cruiser, Gaucho, Poncho, Confidor, Proteus, enfin, différentes molécules qui se retrouvent ensuite dans les sols. Et puis, pour des années et des années, puisqu'on a pu démontrer que certains de ces néonicotinoïdes persistaient pendant 30 ans après qu'ils aient été épandus. Donc c'est dans les années 90 que ces néonicotinoïdes ont été mis sur le marché. Ce sont donc des pesticides qui tuent les insectes ravageurs des cultures. Alors ça peut être le colza, ça peut être le maïs, ça peut être la betterave, et justement on va en parler. Quoique pour la betterave le problème est un petit peu différent, mais on va en parler tout à l'heure. Et ils ont tout de suite été très bien accueillis par le monde agricole. D'abord, principalement en raison du mode d'utilisation de ces néonicotinoïdes, c'est ce qu'on appelle des insecticides systémiques, c'est-à-dire qu'ils se répartissent dans la plante à partir des racines. Et en fait, on les utilise principalement sous la forme suivante. Les graines que l'on sème sont enrobées de ces pesticides. Et après, petit à petit, au fur et à mesure que la plante grandit, eh bien, le pesticide en question l'envahit et tous les insectes qui passent à proximité, enfin qui se posent sur la plante, qui la consomment, etc., sont éliminés. Évidemment, ça marche avec les insectes prédateurs de la culture en question, mais ça marche aussi avec tous les insectes. Donc c'est une catastrophe environnementale pour les insectes, et notamment pour les insectes pollinisateurs, mais pas que d'ailleurs, ça réagit aussi sur d'autres insectes et sur d'autres animaux d'ailleurs, et donc en particulier sur les abeilles qui se trouvent tuées par milliards. C'est une horreur. J'écoutais hier une conférence d'un scientifique sur le sujet qui s'est amusé, entre guillemets si l'on peut dire, à faire le calcul suivant. Pour ce qui est des betteraves dont on va parler tout à l'heure, où il est question justement de remettre ces néonicotinoïdes qui pour l'instant sont interdits, on va le voir, il a fait le calcul suivant. Un néonicotinoïde étant tellement puissant, il en faut très très peu à l'hectare. 60 grammes à l'hectare suffisent. C'est vous montrer la dangerosité de ces produits. Il y a 450 000 hectares en France à peu près de production de betteraves. Si on fait le calcul, lui l'a fait, et si on, connaissant l'impact que ça a sur les abeilles, il s'est amusé à faire le calcul suivant. Si on prend toutes les abeilles qui meurent consécutivement à l'application de ces néonicotinoïdes et qu'on les mette l'une derrière l'autre, on obtiendrait la distance entre la Terre et le Soleil toutes les 21 minutes pendant la période où ces produits sont répandus et sont utilisés uniquement dans la betterave. C'est vous dire l'horreur de ces choses-là quand on imagine les dégâts sur l'environnement. D'ailleurs, il faut bien savoir que depuis qu'on a commencé à utiliser ces produits, la production de miel en France a été divisée par un facteur 3. Avant l'introduction des néonicotinoïdes, on produisait 35 000 tonnes de miel en France. On en produit trois fois moins aujourd'hui, 10 000 tonnes. Il n'est pas compliqué de comprendre où sont passés les autres. Donc on est obligé d'en importer et d'importer certains produits chinois qui n'ont de miel que le nom, parce que ce sont plutôt des sirops qu'autre chose, et qu'on rajoute ensuite au miel pour obtenir une production satisfaisante. Enfin, ça, c'est à la marge. La plupart des apiculteurs font un travail remarquable. Même en important des miels étrangers, parce qu'ils sont bien obligés de le faire, il y a des miels espagnols en particulier qui sont d'excellente qualité. Donc, il faut quand même leur reconnaître cette qualité. Donc, les cultures sont protégées. Et alors, évidemment, c'est très pratique parce qu'on plante des graines qui sont enrobées de ce produit, de ces néonicotinoïdes, et après on s'occupe plus de rien. Et donc on traite systématiquement sans se poser la question de savoir si ça va être nécessaire, utile, et on est ensuite tranquille pendant toute la saison, on n'a plus à se préoccuper de rien. Le problème, c'est que ces néonicotinoïdes, donc non seulement sont ravageurs pour les insectes qui peuvent détruire les cultures, mais aussi pour d'autres insectes qui, eux, n'ont aucune raison d'être détruits, et notamment les abeilles. Ensuite, ils vont dans le sol, ils restent dans le sol. Il faut savoir que seule une partie du produit lui-même est utilisée, le reste part dans la nature. Il y a à peu près moins de 20% du produit qui est utilisé, entre 2% et 20%, on va dire une moyenne de 10% à peu près. Le reste s'écoule dans la nature, est lessivé par les eaux de pluie, se retrouve dans les eaux de surface, ensuite dans les eaux profondes, et on en a tous dans le corps. Hein. Le même scientifique que celui qui a fait cette étude sur la distance qu'on pouvait recouvrir avec les abeilles décédées a expliqué que 95% de la nourriture dans le monde entier contient ces néonicotinoïdes. Et si on affine un petit peu le résultat, 50% de cette nourriture les contient à un taux supérieur au maximum qu'on devrait autoriser. Donc ce sont vraiment des dangers. On s'en est aperçu, notamment à cause de la mortalité chez les abeilles, dans les années 2015, début des années 2010, et à partir de l'année 2016, une loi a été votée pour les interdire. En France en tout cas, pas dans tous les pays de l'Europe, mais en France. Et en ce sens-là, la France était un précurseur. Et donc cette loi a été votée en 2016. Et il faut savoir que la personne qui a défendu cette loi, c'était Barbara Pompili, qui est actuellement ministre donc, de la Transition écologique et qui, à l'époque, était secrétaire d'État. Enfin, en tout cas, elle était au gouvernement. Et c'est sous son impulsion, justement, que cette loi a été votée. Donc cette loi qui a été votée interdisait à partir de 2018 l'utilisation de ces pesticides avec des possibilités de dérogation jusqu'au 1er juillet de cette année 2020. Il se trouve que cette année, les producteurs de betteraves ont constaté une maladie qui apparaissait sur leur culture. La jaunisse de la betterave, ça veut dire que les feuilles se racornissent, que les betteraves elles-mêmes sont toutes rabougries. Et ça, c'est dû à un virus. Mais il se trouve que ce virus est véhiculé par un certain insecte, dont je n'ai pas le nom en tête, peu importe. Donc, ils ont demandé à avoir à nouveau une dérogation sur ce sujet, à cause justement de cette maladie. Et c'est ce qui nous met en colère et... On estime que c'est vraiment un recul épouvantable si, effectivement, on revenait en arrière et si on autorisait à nouveau ces néonicotinoïdes. Donc, en ce moment, une discussion se fait à l'Assemblée pour débattre de ce sujet et nous, on s'insurge vraiment contre ce thème. On fait une petite pause ?
Oui.
Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre?
Voilà, donc ça c'était un hommage à Juliette Gréco qui nous a quittés la semaine dernière. J'ai trouvé que cette chanson était tout à fait adaptée. Cette relation entre le petit oiseau et le petit poisson, ça pourrait aussi bien s'adapter aux animaux et à nous-mêmes, évidemment. Voilà, donc, on en est là de cette histoire de néonicotinoïdes, ce qui fait réagir notre association, et ainsi que d'autres, bien évidemment. Donc, une lettre a été adressée au ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, au mois d'août 2020, pour lui demander d'arrêter, de ne pas revenir sur cette interdiction des néonicotinoïdes, parce que, en fait, un certain nombre d'arguments avancés par les betteraviers ne sont pas recevables du tout. Et il faut absolument se battre pour que ces vraiment produits extrêmement toxiques continuent à être interdits. Donc, parmi les arguments qui étaient avancés, il y en a un certain nombre sur lesquels on peut manifestement comprendre qu'ils sont erronés. Par exemple, il est dit que les néonicotinoïdes ne peuvent pas avoir, qui vont être utilisés, ne peuvent pas avoir d'effet sur les abeilles parce qu'ils sont utilisés par les graines, donc par les semences, et que en plus les betteraves sont récoltées avant la floraison. Bon, effectivement, les abeilles, d'ailleurs, du miel de betterave, ça n'existe pas. Hein. Évidemment, les abeilles ne seront pas détruites par les fleurs de betterave, mais malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, les néonicotinoïdes dispersent ensuite dans les sols, et puis d'autres insectes et d'autres invertébrés sont touchés par ces néonicotinoïdes, les vers de terre par exemple, et d'autres pollinisateurs comme les abeilles sauvages qui nichent dans le sol, donc c'est un faux argument. Un deuxième argument, c'est de dire que si on ne revient pas à l'utilisation de ces néonicotinoïdes, les rentabilités des parcelles de betteraves vont s'effondrer. C'est un argument qui est faux. Lorsque les néonicotinoïdes sont apparus dans les années 90, on n'a pas constaté que ça améliorait le rendement des parcelles. On n'a pas constaté non plus que ça diminuait l'utilisation d'autres pesticides, parce que ça, c'est un argument qu'on avait dit. On avait dit, étant donné que ces produits sont beaucoup plus toxiques, donc beaucoup plus virulents, ils pourront venir éliminer d'autres pesticides. C'est pas vrai, ils se sont ajoutés à des pesticides qui existaient déjà. Hein, pour donner un ordre de comparaison, le pesticide le plus connu, même si maintenant il n'est plus utilisé, c'est le DDT. C'est le premier pesticide qui est apparu dans les années d'après-guerre. Il faut savoir que les néonicotinoïdes dont nous parlons en ce moment sont jusqu'à 10 000 fois plus virulents que le DDT qui a été interdit dans les années 70. Voilà, ça marque bien les esprits, ça. Voilà, donc ce sont des arguments qui sont tout à fait fallacieux. Et on estime que, au lieu de permettre à nouveau l'utilisation de ces produits, il vaudrait mieux aider la filière, d'abord à trouver des produits de substitution, parce qu'il faut bien savoir, et il en existe, contrairement à ce qu'on entend dire, l'ANSES, qui est notre agence nationale de sécurité sanitaire, elle-même annonce que 78 à 80% des produits phytosanitaires peuvent être remplacés par des produits qui sont beaucoup moins virulents, qui sont souvent des produits bio. Puis il y a d'autres techniques qui consistent à mélanger différentes espèces de plantes, qui consistent à introduire des insectes qui sont, eux, ravageurs des insectes qui vont détruire telle ou telle plantation. Et toutes ces techniques doivent être rassemblées pour aller de l'avant. Mais pour ça, il faut permettre aux agriculteurs, aux paysans, comme ils aiment être appelés lorsqu'ils sont plus proches de la terre, de progresser dans ce sens-là. D'ailleurs, je citerai qu'en Italie, une solution qui a été trouvée est la suivante. Tous les agriculteurs concernés par l'utilisation des néonicotinoïdes avant qu'ils l'interdisent eux-mêmes chez eux, se sont rassemblés sous forme coopérative et ont décidé de créer un fonds d'aide aux agriculteurs, à eux-mêmes, quoi, en fait, sous forme coopérative. Ça veut dire que chaque agriculteur cotise en pourcentage des surfaces qu'il cultive à ce fonds commun. Et lorsqu'un agriculteur rencontre des difficultés parce que ses productions ont été attaquées, eh bien, il peut bénéficier de l'aide par ce fonds commun. Et ça ne leur revient pas cher du tout. On a fait le calcul, ça leur revient à 4 euros à l'hectare. Alors que, dans le même temps, s'ils utilisent les néonicotinoïdes, ça leur coûte 40 euros à l'hectare. Donc il y a un rapport de 10. Et en plus, quand ils n'utilisent pas ces néonicotinoïdes, ils ont des produits qui, sur le marché, sont beaucoup plus, sont beaucoup mieux reçus, parce que ce sont des produits bio. Et en ce moment, il faut bien quand même reconnaître que la filière bio, elle a le ventre en poupe. Donc il n'y a que des avantages à utiliser ces produits. Les seuls qui ne trouvent pas leurs avantages, évidemment, ce sont les fabricants. Et on comprend bien que, enfin, moi, c'est mon avis, par l'intermédiaire des betteraviers, ce sont les fabricants de ces produits qui essayent de se remettre en place sur le marché français pour en tirer encore les bénéfices. Alors je tiens aussi à dire que nous avons été reçus il y a une dizaine de jours maintenant par la députée de cette circonscription, Madame Delphine Bagary, qui nous a reçus à Digne, très aimablement. Nous étions quatre personnes, dont trois personnes qui représentaient le mouvement des Coquelicots, dont moi-même, et également une personne, Martine Vallon, qui représentait France Nature Environnement. Donc nous avions demandé rendez-vous, elle nous a reçus très aimablement pendant plus d'une heure. Elle est tout à fait informée du sujet. Elle est tout à fait favorable, bien évidemment, à ce que les néonicotinoïdes restent interdits. Il faut savoir qu'elle fait partie maintenant à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire qui s'appelle EDS, ce qui veut dire écologie. Ah, j'ai oublié exactement, ça n'a pas d'importance. Et donc, en fait, elle a quitté le groupe La République En Marche, auquel elle était inscrite jusqu'à présent. Ça doit vouloir dire écologie, démocratie, solidarité, EDS, je pense. Voilà. Et ce groupe a permis, en début de semaine, là, la semaine dernière, une conférence très intéressante que j'ai pu suivre sur Internet avec des scientifiques qui ont bien exposé, justement, et j'ai repris certains arguments dans ce que j'ai dit précédemment, qui ont bien exposé tous les problèmes liés à ces pesticides et le fait que on doit s'en passer et qu'il y a des solutions pour cela, des techniques, souvent d'ailleurs un mélange de différentes techniques à mettre en place, à trouver bien évidemment, en partenariat avec les paysans, avec les agriculteurs, mais en les aidant dans ce sens-là et non pas en continuant à s'enfermer dans l'utilisation de ces produits dangereux qui sont des vrais poisons pour nous les humains. La Terre se remettra de notre passage si nous devons disparaître, mais les humains, ils sont en mauvaise passe.
Patrick Fabre, merci pour ces bonnes informations, où il y a bien sûr encore heureusement du positif.
Toujours de l'espoir.
Voilà. Et puis, donc, je rappelle que cette émission sera disponible sur notre site fréquencemistral.com. Merci.
Merci et bonne journée.
À bientôt. Au revoir.